Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous pour un nouvel épisode de Mission 3. Pour m'entourer dans l'émission, Sophie Lafayette, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on reçoit Sophie Lambert, bonjour.
Bonjour.
Co-présidente de Centre-Orient et Belgique, c'est bien ça?
Exactement.
Et Louis Coquet, conseil mineur de Vendetti.
Bonjour.
C'est bien ça?
Oui.
Merci d'avoir participé, de venir à l'émission.
Nous vous remercions pour l'invitation.
Nous allons commencer par vous, Sophie. Dites-nous comment a débuté votre arrivée à Centre-Orient Belgique.
Alors, tout simplement, j'ai suivi mon ami, m'a demandé Sophie Lafalise, médium.
Donc moi-même,
voilà. Notre médium de la province de Luxembourg, ici en Belgique, m'a demandé d'aller avec elle à Centre-Orient France, où j'ai fait la connaissance d'Éric Lallemand, qui lui est le président de l'association sensorielle en France. Et tout en discutant avec lui, il m'a fait cette proposition charmante d'être la coprésidente de Sensorielle Belgique avec Sophie Lafalise. Et je n'ai pas hésité une seconde, j'ai tout de suite dit oui. Ayant perdu un enfant, il y aura bientôt 4 ans, le 8 octobre du mois prochain, c'était une évidence pour moi de relayer cette vie après la vie.
Sophie, tu veux rajouter ?
Oui, mais en fait, on n'était pas du tout destiné à ça au départ. Hein. Donc c'est vraiment le hasard, on va dire comme ça, qui n'existe pas, qui nous a réunis là-bas. Et Sensorielle, en fait, a une maison mère, évidemment, Sensorielle Normandie en France, et qui œuvre depuis 12 ans. Et donc, Sophie et moi co-présidons cette association ensemble avec beaucoup de bonheur.
Elle a été créée en 2012.
Exactement.
Sensorielle Normandie, c'est bien ça ?
Exactement.
Et pourquoi vous tournez vers la médiumnité, Sophie Lambert ?
Alors, j'ai toujours cru à la vie, après la vie, la médiumnité, depuis le plus jeune âge. J'ai lu énormément de bouquins. Et malheureusement, dans mon chemin de vie à moi, j'ai perdu mon fils de 18 ans, il y aura bientôt 4 ans. Et voilà, faire la connaissance de Sophie, qui tenait une boutique qui s'appelait Ma Spiritualité à Bertry, j'ai très vite poussé sa porte pour rentrer en contact avec mon fils décédé. Et depuis, je suis convaincue à 100% maintenant qu'il existe bien quelque chose après la vie.
Vous n'avez pas acquis un don de l'humanité contrairement à Sophie ?
Non, absolument pas. Absolument pas.
Sophie, vous pouvez rajouter ?
Alors, ce n'est pas un don, la médiumnité, je le dis toujours, c'est une faculté. Donc un don, quand on dit c'est un don, ça veut dire, voilà, toi tu as le don de Dieu et moi je ne l'ai pas. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est une faculté qu'on affine, que chacun a en soi dès le début. Et voilà, donc c'est quelque chose qui se travaille. Et on y rentre ou on n'y rentre pas. Sophie, elle a décidé plutôt de donner aux autres de son temps, de par cette association Sensorielle Belgique, donc qui a une page Facebook, si vous voulez aller voir un petit peu, on met nos dates, etc., nos actus. Elle a décidé de donner son temps bénévolement dans cette association, et elle le fait très bien d'ailleurs.
Sophie Lambert, ça vous prend combien de temps à vous occuper de Sensorielle Belgique ?
Waouh, alors c'est une bonne question en termes de temps, parce que c'est tellement inné chez moi, c'est quelque chose que je fais avec énormément de passion et de cœur. Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais vraiment pas vous dire.
Beaucoup ?
Ça peut paraître beaucoup pour certains et pour moi, c'est comme une évidence, c'est quelque chose que je donne de mon temps. Que ce soit pour Sensorielle Belgique ou pour d'autres choses.
Vous donnez de vous-même ?
Je donne de moi-même, exactement.
Combien y a-t-il d'implantation de Sensorielle en Belgique ?
Nous.
Oui, simplement. Une seule en Belgique. Deux en France, à ma connaissance. Oui. Une en Normandie, donc la maman, on va le dire comme ça, d'Éric Lallemand, et son épouse et ses enfants. Et une en Occitanie, qui est super, super bien tenue aussi. Et alors, on a la particularité de Sensorielle Belgique, c'est qu'on a très, très peu de médiums. Éric sélectionne très, très peu de médiums comme ça pour travailler avec lui. Vraiment, il va plus vers la médiumnité sérieuse, c'est très très important pour lui, donc on est très peu, et elle est parrainée par Reynald Roussel, qui est un grand médium français, qui œuvre depuis 40 ans dans le domaine, et donc c'est, on a les mêmes médiums qui, je veux dire, tournent d'une association à l'autre, donc on a mis ça en place très récemment, c'est depuis le mois de juin de cette année que ça a été mis en place en Belgique, donc voilà.
Et comment ils sélectionnent ?
Ils sélectionnent d'abord par le bouche à oreille. Ils regardent beaucoup le bouche à oreille, ce qu'on dit des médiums, parce qu'on est d'accord qu'un médium qui va avoir des millions de likes sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram, ça ne veut pas dire qu'il est bon. C'est le bouche à oreille
qui compte.
Exactement. Et puis alors, ils nous testent évidemment. On fait des contacts en salle et puis ils voient si on est sérieux ou pas.
Et combien a-t-il d'adhérents en Belgique ?
plus ou moins. La salle a une capacité de 70 personnes, plus ou moins.
Louis, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui.
Vous avez entendu
concernant...
Sensoriel. Est-ce que tu as une opinion, toi, Louis?
Oui, j'avais une opinion sur ce qu'on a dit avant.
Oui.
Concernant la réincarnation.
Oui.
Tout à l'heure. Sophie disait qu'elle donnait beaucoup de temps, mais inconsciemment, on donne tout le temps son temps, ça, quand on vient dedans, je pense. Donc, ça n'est pas calculé, on ne peut pas dire ça fait autant d'heures. C'est naturel, et en même temps, pour moi, si c'est le même que Sophie, ça me nourrit. Donc, ce n'est pas, c'est pas une charge que du contraire.
Exactement, ça nourrit et ça nous rend plus fort.
C'est ça, guerre.
Oui, exactement.
Sophie Lambert nous demande de soutenir une chanson qui s'appelle « Symbolise sensoriel belgique ».
Alors, ce sera pour moi « Attique éternelle ». C'est la chanson que nous avons mis au funérail de mon fils Kylian, que j'embrasse très fort.
Nous allons l'écouter.
Merci.
Si je devais choisir une drogue, ce serait toi. Si je devais tenir un bras, ce serait le tien. Plus le temps passe et moins je me vois finir loin de toi. S'il te plaît, dis-le-moi, tu veux mourir près de moi. T'es le plus beau de tous mes livres. Quand tes petites mains me délivrent de ce mal qui m'habite. C'est dans ton petit cœur que je m'abrite. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te le jure devant l'éternel. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. J'aime d'un amour infernal. Je te le jure devant l'éternel. À quoi servent les promesses? Avec toi je vis déjà tous mes rêves. Et même si tu deviens encombrante, dans mon cœur j'aurai toujours de faire de la place. Ils ont dit que la limite c'est le ciel, mais je traverserai pour te retrouver. Comme auparavant je traversais la mer. Et si t'as les yeux qui piquent, que la pluie tombe sur tes joues, dis-toi que c'est rien du tout, ça passera à tous les coups. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te le jure devant l'éternel. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te le jure devant l'éternel. J'aimerais que tout ça soit éternel. J'aime d'un amour infernal. J'te le jure devant l'éternel. Oh.
Lui, nous allons passer à vous. En 1956, vous avez commencé comme fondeur à l'âge de 15 ans, puis agriculteur comme porteur de pierre. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Donc, en 1956, mes parents sont morts très jeunes. Donc, ma mère est morte très jeune. Mon père était orphelin avec 6 enfants. Donc, à un moment donné, avec mon frère, on a senti qu'on devait l'aider. Donc, on a pu aller à l'école. Et à ce moment-là, on était engagé à l'Ardentière comme fendeur. Jusqu'à 18 ans, on ne pouvait pas aller dans le fond. Mais le jour de mes 18 ans, donc 2 jours après, le 2 janvier 1958-59, je demandais à descendre dans le fond comme porteur de pierre. Donc là, c'était un autre travail dans l'obscurité, puisqu'il n'y avait pas d'éclairage dans cette mine-là. Il y avait simplement l'électricité pour pomper les eaux, mais dans les galeries, c'était l'obscurité complète, donc on se déplaçait avec une lampe à carburant.
Sophie?
Tu avais quel âge à ce moment-là, Louis?
18 ans quand j'ai été dans le fond, mais 15 ans quand j'ai commencé
travailler. Est-ce que tu as eu des séquelles au niveau de ton physique par rapport à ça? Parce que c'est un travail extrêmement dur, j'imagine, porteur de pierre. Et je n'ai pas l'impression, quand je te vois, alors les auditeurs ne te voient pas, mais s'ils te connaissent, tu marches bien droit, tu as une belle carrure. On n'a pas l'impression que ton physique a souffert de ce travail.
Merci pour les compliments. Mais le travail, quand on aime son travail, ça n'est jamais dur. Il y a des journées que je traînais un peu l'épée comme tout le monde, mais dans le fond, j'ai toujours aimé le travail que je faisais. Et à ce moment-là, il se fait naturellement, sinon on est tendu. Je vais dire qu'à l'heure actuelle, on fait beaucoup de dépression de burn-out parce que les gens ne sont plus fatigués. Tout se fait dans le côté intellectuel. On a des machines qui font tout à notre place, et donc on a du temps pour réfléchir. Et réfléchir à quoi quand on est oisif, ça n'apporte pas toujours le bonheur.
Vous étiez combien de mineurs dans la mine?
35 dans le fond et 60 dans la surface à peu près.
Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez expliquer ce que c'est un fendeur?
Oui, donc le fendeur de pierre, lui, on remontait des dalles de plus de parfois 5 kilos en surface. Ils étaient débités à quartier de 20 sur 30 pour faire des ardoises de 20 sur 30. Et au départ, moi j'ai encore appris à débiter la pierre à la main, c'est-à-dire sans scie et sans disqueuse qu'on en met maintenant. Et ça m'a servi dans le fond parce que là aussi il fallait débiter des arbres de pierre parce qu'on avait des blocs de 20 000 kilos, hein, donc c'était énorme. Et on fendait ces blocs dans de 10 cm. Le déchet restait sur place. Et la dalle était portée dans la galerie. Mais comme les chambres d'extraction faisaient 20 mètres de profondeur, donc il y avait 3 gradins. Et quand la pierre était au fond, on montait les 20 mètres la pierre pour la monter dans la galerie. Quand la chambre était plus haute que la galerie principale, on descendait en reculant. C'est très spécial.
C'est physique?
Ah oh oui, on travaillait 8 heures par jour, et 6 jours par semaine, et comme qu'on les payait, on avait une semaine.
Au niveau de la sécurité, alors maintenant on voit que toutes les sociétés ont un aspect très sécurité, comme ça on fait très attention aux ouvriers. À cette époque-là, est-ce que ça existait ou est-ce que c'était inexistant la sécurité? Est-ce que vous aviez des vêtements de sécurité, des bottines? Comment ça se passait à ce moment-là?
Mais au départ, non, mais très vite la sécurité s'est mise en route, les lois ont été faites. À ce moment-là, on avait les chaussures, tout ce qu'il nous fallait, les gants.
Et est-ce que ça t'a aidé, est-ce que c'était mieux avec l'équipement ou mieux sans pour toi?
Ça
peut paraître ridicule comme question, mais j'imagine que tu étais plus léger quand tu n'avais pas tout ce matériel-là, les bottines, etc., même si c'était pour ta sécurité. Est-ce que tu as mieux aimé l'avant ou l'après, toutes ces lois?
Mais je veux dire les deux, parce qu'il y avait des sécurités, les chaussures de sécurité, c'était bien, parce que moi j'avais des chaussures sans roues d'acier. Quand on retournait des pierres, ben, j'ai eu des orteils noirs. Donc, c'était pas bien. Mais on a un inspecteur de sécurité qui n'avait pas de foyer, dans le même monde que moi, qui travaillait dans une ordinaire plus moderne, et il nous imposait le casque. Mais porter une pierre sur le dos avec un casque sur la tête, il tombe dans nos pieds. Dans les échelles, c'était dangereux. Donc, l'inspecteur, quand il arrivait, on était averti qu'il venait, on mettait le casque, on ne portait pas. Donc d'accord. C'est un peu quelque chose que je ne devrais pas révéler, je pense qu'il y a prescription
non,
maintenant.
Non mais c'est précieux, moi je trouve ça très précieux, un témoignage comme ça de l'avant et après, parce que maintenant tout est très codé, tout est très, il y a beaucoup d'obligations pour tout ça, et c'est très intéressant je trouve de savoir comment ça se passait avant, justement.
Oui. Ça tue trop de travail, c'est l'initiative, la spontanéité. Chaque métier, maintenant je vois les gens traînent les pieds, que ce soit n'importe quel métier, les gens se lèvent, on croirait qu'ils vont à l'échafaud. Mm-hmm. C'est pas normal, nous on chantait, on rigolait, et pourtant le métier était dur. Donc c'est pas un reproche, c'est notre évolution, c'est un autre monde, donc je suis toujours dedans, moi. Quoi.
Tu l'expliques comment, toi, ce changement d'humeur par rapport au travail?
Le changement d'humeur par rapport.
Mais le fait, tu sais, tu dis avant, on y allait en chantant, malgré le travail était très dur, et maintenant, c'est comme si tout le monde allait à l'échafaud. Comment tu l'expliques, toi?
C'était moins personnel, c'était un travail de groupe, donc on travaillait par 3, 4 dans une chambre d'extraction, donc automatiquement, on s'aidait l'un l'autre. Parce que maintenant, il y a un mal de travail, donc celui qui a du travail, il veut le garder. Donc maintenant, le monde est vraiment, vraiment trop égoïste pour moi. Donc, il faudrait que ça change, mais ça, personne ne veut changer, c'est l'autre.
Sophie Lambert, quelque chose à rajouter?
Donc, je trouve ça très beau, très juste, et moi, j'ai une question à poser, c'est quel était le poids de la pierre que vous portiez?
Ça paraît presque invraisemblable parce qu'il faut savoir que le chiffre, elle est une densité de 2,7. Donc 2700 kg pour 1 mètre cube. On portait des dalles de 10 cm, donc une dalle de 10 cm à 1 mètre carré, ça nous faisait 270 kg. On ne portait pas 270 kg. Mais le maximum que j'ai porté, moi personnellement, c'est 224 kg. C'était pesé, il y avait une bascule en surface. On pesait les wagons pour les vendre aux fardeurs. Et quand on aurait porté une très lourde, l'ego nous demandait de peser la pierre. Et à ce moment-là, la plus lourde pesait 224 kg.
Et c'est pour ça que je le répète et je le dis aux auditeurs qui ne te voient pas. Mais on ne dirait pas du tout que tu as été cassé par ton métier. Alors qu'on pourrait croire que ton dos aurait pris un coup. Et ce n'est pas le cas finalement. Enfin, tu es très bien. Alors, je ne vais pas dire ton âge. Tu as plus de 80 ans, on va dire comme ça. Et tu te tiens droit, etc. On a l'impression quand on porte des poids aussi lourds, on va être cassé. Le physique va être cassé. Mais ce n'est finalement pas ton cas. Et donc, je pense que c'est une grande chance.
Et toutes les gens, les bûcherons que j'ai rencontrés et d'autres métiers, ils étaient plus heureux quand ils abattaient l'arbre à la hache, à la scie, une recette, on appelait ça une recette. C'était une scie qu'on maniait à deux. Donc, à ce moment-là, ils s'asseyaient, ils buvaient leur café ou un petit verre de vin à midi. Ils écoutaient les oiseaux, ils étaient heureux. Maintenant, on a une machine qui coupe le sapin, qui le découpe, qui le charge directement sur le camion. La personne qui manipule l'engin, il a des écouteurs pour ne pas avoir le bruit, il n'entend plus rien, donc c'est déshumanisé, je pense, le travail.
Et c'est ça qui explique alors peut-être le fait qu'on est plus bon comme avant de travailler.
Parce qu'on fait beaucoup de burn-out maintenant, c'est pas incroyable. Mm-hmm. Et dans des métiers qu'on n'imaginerait jamais. Donc, ça, c'est sûr. Pour moi, c'est assez surprenant. Et je fais le guide à la Marie Pire parce que je suis l'initiateur de la, avec Yves Krull, donc le gérant, on a fondé la Marie Pire, c'est un musée. Et là, à l'occasion, je fais le guide pour des groupes. Et pas plus tard qu'hier, je guidais des gens, des conducteurs du chemin de fer, de la SNCB. Et ils ont été vraiment surpris de voir le décalage qu'il y avait avec maintenant. Mmh. Donc, et n'en viennent pas non plus de voir ma vitalité, mais je dis, c'est pas un exploit, je ne m'invente pas, c'est simplement naturel chez moi. J'aime faire ça. Aujourd'hui, je parle à la radio, demain, je vais faire autre chose, toujours avec le même plaisir.
Et où se situe le musée dont tu parles, Louis? Pour les gens qui voudraient accéder à ça ou être guidés par toi?
C'est sur la route de Bertry, les Montgir, on descend sur Herbumont. Donc, c'est près d'un viaduc, près d'une ancienne ligne de chemin de fer, Bertry-Munot, qui allait jusqu'à Messin-Après en France. Et cette ligne-là a servi à la guerre de 14, à la guerre de 40. Donc, en 14, les Allemands ramenaient du front les soldats dans les wagons. Et mon père, qui était jeune à ce moment-là, il disait que parfois on voyait ça qui coulait des wagons. Donc, oui.
Tout un pan d'histoire à raconter.
Oui, oui.
C'est aussi un exergue qu'il faut être fort physiquement et psychologiquement aussi, vous êtes fort.
C'est le psychologique qui est le physique. Pour moi, je parle beaucoup de spiritualité, le spirituel. Quand on a un bon taux spirituel, on aime la vie. Quand on a un mauvais taux spirituel, on n'aime pas la vie. Donc, il y a des choses qui dégradent le taux spirituel. C'est la haine, la rancune, l'avarice. Donc, je dis souvent, le monde va mal parce qu'on travaille plus sur nos défauts que sur nos qualités. Ou sur les péchés que sur les vertus. Si quelqu'un comprend la religion, l'avarice, il y a la charité, il y a la haine, il y a l'amour. Donc, pour moi, chaque humain doit travailler pour aller vers cet idéal de la bonne qualité, de la qualité ou des vertus.
Sophie ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Louis de par justement son chemin spirituel, parce qu'il a eu un chemin très difficile en tant que mineur, mais qui n'a pas paru si difficile. Hein, quand tu nous racontes ton métier,
on
a l'impression que tu étais passionné. Et puis, il a aussi son chemin de vie spirituel qui l'anime depuis plus de 40 ans, je pense, maintenant. Et Louis est extraordinairement intéressant en termes aussi de spiritualité.
Louis, vous avez écrit 3 livres, c'est ça ? Parcours d'un arnaudier mineur, édition Wérif, c'est bien ça ?
Oui.
Le pèlerin aux éditions Thierry Saint-Jean, c'est bien ça ?
Oui.
L'ermite de la chapelle aux éditions Thierry Saint-Jean.
À Paris.
C'est bien ça ?
Oui, oui.
Le début des 3 livres et votre coup de cœur ?
Oh, l'ermite de la chapelle.
Pourquoi ?
Oh, parce que c'est le plus abouti, le plus réussi et celui qui est fait le plus en. On va dire en médiumnité. Les autres, je les ai écrits, le parcours d'un ardoisier, j'ai mis une année pour le terminer. Le pèlerin, je crois que j'ai mis 6 années, parce que je n'écris pas pour faire du rendement. C'est l'inspiration, et je ne me sentais pas poussé. Et l'ermite de la chapelle, je l'ai fait en 3 mois. Parce que là, j'étais vraiment inspiré, puis j'avais évolué en spiritualité. On va dire la spiritualité, c'est pour moi, ça n'a rien à voir avec le cerveau ni le mental. Donc le spirituel, c'est être soi-même. Quand je veux être quelqu'un d'autre, je le fais mal. Mais quand je fais quelque chose que c'est moi, je le fais très bien parce que c'est moi-même. Donc, trop de gens veulent faire comme un médium, comme n'importe quel personnage. Et donc, leur don ne vient pas. Ou comme dirait Sophie Lafalise, on n'a pas de don, mais on a un acquis pour moi. L'acquis, on l'a pour moi de vie en vie, si on veut. Donc, l'esprit, quand il meurt, quand le corps meurt, il va là-haut, et puis il redescend dans un corps. Pour moi, il a une mission. Il vient pour améliorer soit sa charité, soit son amour de la vie, soit pour être médecin, pour soigner. On voit des grands peintres, Mozart qui faisait des sonates à 4 ans, donc il composait. Pour moi, c'est un personnage qui était déjà très bon avant sa dernière désincarnation. Mais ça n'engage que moi, bien sûr.
Sophie Lambert, ça c'est la valise.
Moi, j'ai beaucoup aimé Le Pèlerin, parce que d'abord, c'est le premier que j'ai lu, donc aux éditions Thierry Saza, comme l'a dit Angelo, parce que je trouve que il explique très bien le parcours, justement, de ce que tu as vécu. Pour les trois livres qu'on vient de citer, hein, donc on a Le Pèlerin, L'Ermite de la Chapelle, et puis
Parcours d'un
ardoisier, qui est très intéressant aussi pour ceux que ça intéresse. Et vous pouvez vraiment contacter Louis Soquet, S-O-Q-U-A-Y, ou moi-même d'ailleurs, si ça vous intéresse. J'en ai quelques exemplaires. Ils sont extrêmement faciles à lire, je trouve. Tu n'utilises pas des phrases qu'on ne comprend pas. C'est facile à lire, c'est accessible à tous. Donc allez-y, vous allez être charmés.
C'est fluide.
C'est très fluide, oui.
Pourquoi êtes-vous mis à l'écriture, Louis Soquet?
C'est un directeur d'école d'Arlon qui est écrivain lui-même, qui a fait les passeurs d'eau à Chili. Monsieur Moreau. Et je guidais des classes, donc il met beaucoup de classes, et il accompagnait la classe le matin, puis celle de l'après-midi. Un jour, il me dit, Louis, tu devrais écrire un livre. Quand je t'écoute, c'est de raconter des histoires. Et c'est éducatif en même temps pour les enfants. Moi, j'ai dit, puis si, moi, j'ai arrêté mes études à 6e primaire, donc je n'ai pas étudié les auteurs, rien du tout, donc je ne me vois pas en train d'écrire. Mais tu n'as pas besoin de ça, tu as tout dans ta tête. Et puis j'ai essayé pendant une semaine, et puis j'ai été au bout, je me dis, je n'y arrive pas. Et une scène par contre, on fait un halte sur ce mois. Je discutais des blagues qu'on faisait avec un copain Fandor, qui s'appelle Francis Guimès, et on rigolait à haute voix. Et à un moment donné, tout le monde dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Ben, on raconte des histoires, des blagues qu'on faisait, ça nous amusait. Et la pièce est tombée à son mari, je me suis dit, ben, lorsqu'il faut que je fasse, je vais raconter ma vie, parcours de l'artoisie. Donc ce n'était plus germinal, donc je ne vais pas dire qu'on était malheureux. Il y avait plein d'emplois à ce moment-là, donc je pouvais aller travailler autre part, on gagnait mieux sa vie. C'est là que je voulais être.
C'est des mémoires.
David.
Ce que vous écrivez, c'est des mémoires.
Oui, une mémoire d'une vie passée, qui n'est pas si loin que ça, puisque je suis toujours vivant.
Sophie Lambert, vous avez une question à poser?
Non, pas du tout, pour le moment, aucune.
Oui, je voudrais savoir ton avis, Louis, par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que toi qui as vécu une vie où tu fallais travailler, où tu as vécu quand même des choses compliquées, hein, tu as été orphelin assez jeune, ouais. Que penses-tu de l'évolution de la jeunesse par rapport au travail, par rapport à l'éventuelle dureté de la vie qui s'est quand même adoucie, je trouve, personnellement, par rapport aux jeunes? Quelle est ton opinion par rapport à ça? On peut y mêler le spirituel d'ailleurs, hein, parce que je sais que toi, tu y es fort.
Oui, mais les jeunes, je ne voudrais pas être jeune là, maintenant. Si on me demande de recommencer ta vie, je signe le 2 mai pour refaire la vie que j'ai faite, mais pas celle de ce qu'on vit maintenant.
Pourquoi?
Mais parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'avenir. Mais c'est dommage pour la jeunesse, c'est que ils se contentent de critiquer, mais il faut mettre la main à la pâte. Et donc, on peut dire que le système n'est pas bon, mais moi j'attends quelqu'un qui fasse quelque chose.
Que direz-vous à un jeune que vous voyez par exemple en face de vous? Vous vous direz quoi?
Je lui dirais, travaille, étudie, si tu n'étudies pas, fais quelque chose de tes mains, n'importe quoi, mais fais quelque chose. C'est important. Ça pourrait aider les jeunes parce que dans une mineure, Pierre Bachelet, les corons.
Nous allons passer.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond.
Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Oh, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les âmes des mille fonds. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents, ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays, grâce à eux je sais qui je suis. Oh non, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les âmes, des mineurs de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose, posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays, c'est avec eux que j'ai compris. Oh non, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les âmes, des mineurs de fond. Des mineurs de fond.
Oui, pourquoi les corons?
Oh, mais parce que ça, c'est vraiment l'histoire des mineurs de fond, des charbonnages. C'était une vie très très dure et très dangereuse. Et on a une grande amitié entre les mineurs de charbon et les mineurs d'ardoise. Franchement, quand j'en rencontrais, parce que je n'en rencontre plus, maintenant ils sont tous morts. Donc, on avait vraiment une belle rencontre. Et c'est rare d'entendre une corporation qui plaint l'autre. Ils disaient toujours, t'avais un métier tellement dur que j'aurais pas voulu faire le tien. Et moi, je suis descendu dans le fond à 900 mètres, et j'ai vu la chaleur, la poussière, le danger. Je dis, moi, je n'aurais pas voulu faire le vôtre. Donc, c'est plutôt rare. D'habitude, on se plaint toujours de son métier en soi.
Vous êtes le dernier?
Le dernier. Il y a encore un ami qui habite à Warmifontaine, ici, à 20 km d'ici, et que je le raconte presque plus. Mais de temps en temps, quand je vais dans son village, je vais lui dire bonjour.
Je trouve ça assez chouette que vous ayez gardé une belle cohésion ensemble et jusqu'à la fin, en fait, finalement, un bel état d'équipe, un bel état d'esprit d'équipe. Pardon, ouais. J'ai oublié le mot esprit. Ah, c'est un beau lapsus de ma part.
Ouais, ouais.
C'est très bien.
La dureté du travail rapproche. Hein. Quand on est les prisonniers de guerre, moi, mon père était prisonnier, ben, ils ont fait une association de prisonniers, et ils faisaient des réunions de prisonniers, on faisait des balles pour les prisonniers, des choses comme ça, pour raconter et déverser leurs histoires. Donc c'est un peu la même chose. Hein. Plus le métier est dur, plus il est spirituel pour moi. Mais dire ça à quelqu'un qui souffre à l'instant présent, je ne serais pas bien reçu. Mais au fond, c'est ça qu'on vit. On vit les difficultés pour nous façonner et pour faire un homme nouveau, une femme nouvelle, quoi.
Et vous êtes venu votre spiritualité?
Comment?
Vous êtes venu votre spiritualité?
J'ai travaillé dur très longtemps, j'ai eu des enfants qui ont étudié, donc automatiquement il fallait payer les études. Comme je travaillais, je n'avais pas le droit à des bourses d'études, donc je travaillais après journée. Et un jour, je me suis cogné dans un grenier, la tête dans un grenier, et je me suis fait les hernies cervicales. Et pendant un mois, j'ai été au sol, pas moyen de me bouger, j'ai été opéré deux fois, donc j'ai souffert très fort. Et je me suis dit, à part travailler, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui va rester de toi? Qu'est-ce qui va devenir? Donc ça m'a interpellé, et j'ai un ami qui est venu me rendre visite, et qui m'a parlé d'un médium de l'époque, qui s'appelait Joseph Gaspard, qui était quand même sommité à cette époque-là. Et j'ai été le consulter deux fois, et là il m'a annoncé qu'un jour je soignerai les personnes, je serai du magnétisme. Je n'y croyais pas. Et effectivement, la graine était semée. Un an plus tard, je m'intéressais vraiment à la chose.
Sophie a failli.
Oui, et c'est assez impressionnant hein, ce que Louis a commencé à faire. Ça date de 40 ans. Hein, mais c'est assez impressionnant si vous connaissez un peu Louis Soquet, son parcours, si vous avez été le rencontrer. C'est toujours des discussions qui sont hyper enrichissantes. Et je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers lui si vous en ressentez le besoin.
Sophie Lambert, vous entendez vers vous. Que direz-vous aux gens qui pensent que la médiumnité n'existe pas?
Eh bien, que chacun a ses propres jugements, convictions sur le sujet. Mais moi, étant baignée depuis le plus jeune âge là-dedans, par la lecture, parce que j'ai toujours été très très éveillée sur le sujet, je leur dirais de venir à Sensoriel Belgique le 29 novembre, qui aura lieu au Centre culturel à Bertry, et de venir découvrir Sophie Lafalise, qui est notre grande médium de chez nous. Moi, je trouve que c'est important de le rappeler, parce que c'est la réalité.
Elle rougit, là.
Oui, mais plus on est sceptique, et mieux c'est, à la limite. Oui. Les contacts en salle, je pense que quand on n'y croit pas du tout à tout ce qui est médiumnité, vie après la vie, etc., tous les grands mots qu'on utilise, hein, parce que la médiumnité, ça veut tout dire et rien dire maintenant, faites l'expérience par vous-même, je pense que
exactement.
C'est ça.
Exactement, c'est ce qui est le plus important, et vous allez découvrir totalement un changement de vie, parce que moi, ayant parlé plusieurs fois maintenant avec mon Kylian depuis qu'il est de l'autre côté, ça me donne la niaque justement de continuer à vivre toujours dans le bon esprit, dans la bienveillance, dans l'amour, et qu'un jour on sera ensemble, on sera de nouveau physiquement en tout cas ensemble.
Vous avez eu des critiques pour les associations, Sophie Lafalise?
Alors des critiques, je n'irai pas jusqu'à utiliser le mot critique. Je pense que quand on est 70 dans une salle, je ne peux pas, peu importe le médium, on ne peut pas avoir 70 contacts défunts. Donc c'est dur pour les personnes qui parfois n'en ont pas, parce qu'elles ont beaucoup d'espoir, et on ne fait que de le répéter, hein, ça, les 70 personnes n'auront pas toutes un contact. Il y a une espèce de hiérarchie, je pense, de l'autre côté, qui fait que les défunts qui passent sont les défunts qui passent pour les personnes qui sont le plus en deuil, je vais dire comme ça, qui en ont le plus besoin. Donc il y a toujours une personne de sauver, pour moi, dans les contacts en salle. C'est Rénal qui disait ça, Rénal Roussel, et je pense qu'il a raison. Et donc voilà, donc critique, je n'irai pas jusqu'à dire critique, mauvaise et méchante, parce que si vous venez voir un contact en salle avec un autre médium que moi, mais un médium ou moi, mais en tout cas quelqu'un de compétent, vous n'aurez pas de critique à faire. C'est impossible de critiquer dans le sens que on dit des choses précises qu'on ne peut pas savoir réinventer. Donc même des personnes très sceptiques qui viendraient auraient du mal à trouver, à moins qu'il soit dans une douleur immense, parce que parfois, quand on est dans une douleur immense, on manque de discernement. Donc, si vous venez et que vous êtes très très fort en deuil et que vous attendez des détails très précis, qu'on vous donne des détails très précis, donc, par exemple ce que vous avez mis dans le cercueil au décès de l'être cher, et que vous ne les avez pas, si vous êtes vraiment dans la tristesse, vous allez penser que tout ça est du pipeau et vous allez passer à côté de plein d'autres détails et cadeaux qu'on vous a donnés. Et là, vous pouvez être critique. Et là, je vous pardonne parce que je pardonne tout quand on est dans la peine. Mais je pense que les personnes qui viennent avec du discernement et un état d'esprit assez clair ne peuvent pas critiquer. Ils peuvent être déçus, mais pas critiqués. Voilà.
Dans quelle catégorie d'âge présente Sophie Lambert ?
Alors moi, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas forcément de catégorie d'âge parce que malheureusement, on peut perdre un être cher à tout âge. Un enfant peut perdre son papa ou sa maman et avoir un éveil spirituel important que pour pouvoir entendre les choses. Moi, mes enfants, d'ailleurs, de 17 ans, ma fille Perdée et Aaron de 8 ans, ils sont aussi éveillés que moi spirituellement. Et donc, voilà, c'est un sujet qu'on parle assez régulièrement.
C'est pas tabou.
Mais c'est pas un sujet qui est tabou, absolument pas. Et je veux, surtout, c'est ça mon message, c'est que grâce à l'association, je veux justement que la médiumnité, que la vie après la vie, ne soit pas tabou. Et qu'on arrête de vivre dans le malheur, dans le fait d'être en deuil. Parce que nos défunts, c'est parce qu'ils veulent pour nous, ils veulent nous voir bien, ils veulent nous voir joyeux, ils veulent nous voir évoluer et continuer dans notre vie que nous avons à vivre sur Terre.
Je peux permettre de préciser quand même que nous n'acceptons pas les enfants pendant les réunions parce que on ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur un enfant qui n'a pas la maturité parfois de comprendre. Mais par contre, on est dans une ambiance très rigolote, très ouverte. On n'est pas avec le turban violet. Voilà, c'est ça, le drama, la boule de cristal. Pas du tout. On parle comme on se parle là à l'heure actuelle et dans une voilà malgré le fait que les personnes sont en deuil, dans une très bonne ambiance finalement.
Sophie Lambert, personnellement, vous avez déjà parlé à une personne de l'au-delà ?
Oui, bien sûr, mon fils, mon Kylian, bien sûr, via Sophie Lafalise.
Et peut-être une question à vous deux ou à vous trois, qu'est-ce qui est le plus souvent toujours un membre de la famille qu'on a besoin de contacter ? Ça peut être hors cercle familial, vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr, ça peut être du cercle familial. Moi, dans mon cas, ça aurait été mes grands-parents et bien sûr mon fils qui est primordial pour moi, ou des amis qui soient décédés, oui, bien sûr. Mais bien sûr, pas dans l'abus.
Sophie ?
Ça peut être hors cercle familial. Hein. J'ai fait aussi des contacts avec Louis, justement, par rapport à certains de ses mentors. Des personnes qu'il connaissait, mais alors pas dans du cercle familial, mais plutôt pour l'aider dans son parcours de vie. Je fais des expériences régulièrement avec Louis, parce que c'est une personne exceptionnelle, et puis que voilà, je suis tout à fait en confiance, et ça passe aussi. Donc c'est ça qui est chouette.
Sophie Lambert, je vous demande de choisir une chanson qui définit votre passé. Vous avez choisi ?
Résiste.
Et pourquoi ?
Parce que je trouve que ce qui ne tue pas rend plus fort, et que je suis une battante.
De nous faire ravir aux auditeurs la chanson. N'est-ce pas, Sophie ?
Oui, bien sûr.
Voilà.
C'est pas ça qu'on t'aime.
Nous allons passer à la chronique de Sophie, les bons numéros de Sophie. Expliquez.
Alors, les bons numéros, il ne s'agit pas du loto. On appelle ça les bons numéros parce que c'est de la numérologie. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, ou ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est un principe en réalité assez simple par rapport, basé hein, sur votre date de naissance pour calculer votre chemin de vie. Louis connaît bien, c'est d'ailleurs lui qui me l'a appris. Et donc, ça va être un petit peu une dédicace, ce que je vais faire à Louis aujourd'hui. Mais comme on commence toujours par les dames, je vais commencer donc par Sophie. Alors, Sophie, elle est née un 20 juillet sous le signe du cancer. Son chemin de vie est donc le 11. C'est un maître nombre qui parle d'intuition, d'inspiration et de lumière à transmettre. Donc on est dedans, ici, par rapport à sensoriel. Ce chemin est rare et puissant, il donne une grande sensibilité, une connexion naturelle avec le monde invisible et une capacité à guider les autres. Le cancer vient renforcer cela, un signe protecteur tourné vers la famille, l'émotion et le besoin de créer du lien sincère. Est-ce que tu te reconnais jusque-là, Sophie ?
Oui, exactement.
Ah oui, c'est bien.
Alors,
oui,
tu as des points forts. Tes points forts sont une intuition remarquable qui te permet de capter les choses avant même qu'elles ne soient dites, une créativité inspirante et une empathie profonde qui en fait une présence réconfortante pour ceux qui t'entourent. Ouais. Tu as le don de transformer ta sensibilité en une force lumineuse qui inspire et aide les autres. Mais cette intensité peut aussi être un défi. Ton hypersensibilité peut parfois te fragiliser, te rendre sujette aux doutes et aux émotions fortes. Elle a aussi tendance à porter les blessures des autres comme si elles étaient les siennes et à te disperser entre tes grandes aspirations et ta réalité du quotidien. Le chemin du 11, lui, demande donc de t'apprendre à garder ton ancrage, à prendre soin de toi autant que des autres pour que ta lumière reste claire et stable. Est-ce que ça te parle ?
Ça me parle, je trouve ça même très juste et très joliment dit. Merci beaucoup.
Donc pour toi, c'est le chemin de vie 11.
Ok, un chemin vraiment très dur. Donc l'âme a mis la barre très haut pour, c'est pour avancer plus vite vers la lumière, vers l'amour. Donc c'est bien, mais il faut résister.
D'où ma chanson, résiste.
Voilà, c'est très bien.
Le 11, ça correspond à quelle carte du tarot, Louis ?
La force. Donc,
On est dedans. Et donc, c'est Louis qui m'a appris tout ça, encore une fois. Hein. Donc, c'est lui le grand maître aujourd'hui. Alors, Louis, bah, toi, tu le sais, tu es le chemin de vie 7. Tu es né un 26 décembre sous le signe du Capricorne. Donc, tu es un chemin de vie 7. Et c'est le chemin de vie 7, c'est celui de la quête intérieure et de la sagesse. Le 7 est un chemin profond tourné vers la réflexion, l'analyse et la recherche de vérité. Ce n'est pas un chemin de surface. Il pousse à comprendre, à chercher derrière les apparences, à développer une vraie spiritualité. Et ça revient vraiment par rapport à tout ce que tu as vécu. Donc, tout ce que tu nous as expliqué par rapport à ton accident, ta douleur quand tu t'es cogné, on y a développé une vraie spiritualité. Ses points forts, c'est une grande capacité de réflexion et d'analyse, une patience solide et une maturité naturelle. Le Capricorne accentue ce sérieux et cette persévérance. C'est un signe qui aime construire dans le temps, qui garde les pieds sur terre et avance avec détermination. Louis incarne donc une forme de force tranquille, quelqu'un qui inspire le respect et la confiance par sa constance. Mais comme toute énergie, le 7 a aussi ses défis. Louis peut parfois se replier dans son monde intérieur, au risque d'être perçu comme réservé ou difficile à cerner. Il peut aussi passer trop de temps à réfléchir, à analyser et ne pas toujours oser agir. Le chemin du 7 lui demande d'ouvrir sa richesse intérieure vers l'extérieur et de partager sa sagesse plutôt que de la garder pour lui seul. Est-ce que ça te parle, Louis ?
Très bien. C'est vraiment... Ça me branche à 100%.
Et c'est vraiment ce que tu fais. Tu partages en allant faire des visites par rapport...
Les marches, c'est toujours un partage. On dirait au départ, pour avoir un rendez-vous, c'est pas ça. Mais le partage, il nous rend de toute façon. Donc on donne à l'univers et l'univers nous donne. Ça, c'est important.
Le disciple dépasse le maître.
Ah ben, je ne pense pas. Je ne pense pas que je dépasserai un jour Louis. D'ailleurs, c'est lui qui m'a tout appris, je le répète. Les chemins de vie, la numérologie, je le répète, hein, c'est magique. Donc si vous ne le connaissez pas, la façon de faire, ou si vous avez envie d'en apprendre plus, n'hésitez pas à le contacter. Louis est extraordinaire, que ce soit pour le tarot ou le Reiki, etc.
Louis, dites-nous comment était la vie d'un mineur.
On descendait le matin à 7h30, on remontait à 13h pour manger, et puis on redescendait jusqu'à 17h. leur journée, ben, je l'ai expliqué tout à l'heure, dans l'obscurité, on portait une moyenne de 5 tombes par jour. Donc, il y a des jours, des journées, on portait 7 tombes et on n'était pas fatigué. Et des journées, on portait 3 tombes, on était très fatigué. Je m'explique. Il y avait trois, dans chaque champ d'extraction, il y avait 3 gradins. Donc, quand le gradin était 20 mètres plus bas, on mettait plus de temps, donc on n'aurait pas beaucoup de rendement. Mais quand c'était à plat, au niveau de la galerie, on portait 100, 120, 130 kilos allègrement au bout d'un certain temps. J'ai eu la chance de porter de la pierre avec un homme célèbre aux Jeux Olympiques, Serge Redin, qui avait gagné la médaille de bronze à Tokyo. Et le contremaître lui avait dit une fois, « Toi qui es costaud, viens un peu porter dans la mine avec mes hommes pour voir un peu comment ça va. » Et à 10h, il a dit, « J'ai pas entendu, je n'en veux plus. » Ce n'était pas le même effort. Lui, il portait, il levait de face, parce que nous, c'était le dos. Donc, on développait une autre qualité. Alors, la vie de mineur... en hiver, du 15 octobre au 15 avril, on descendait qu'il faisait noir, on remontait qu'il faisait noir. Donc, on avait 6 jours d'obscurité sur 7. Pour moi, c'est ce que j'ai retenu le plus négatif, si on peut appeler négatif.
Donc, il en est.
Exactement, c'est une très belle histoire, une très belle histoire de vie qui devrait mettre beaucoup de personnes un peu coupées. Ah, c'est ça que je voulais dire. Je n'arrivais pas à trouver le mot. À prendre exemple sur Louis Stocker. Très belle histoire, très belle leçon de vie en tout cas.
Oui, bah, effectivement, je pense qu'on est tous à la recherche de ce genre d'anecdotes qui nous apprend beaucoup de choses, qui nous font prendre aussi pas mal de recul sur la vie, sur les enjeux, sur tout ce qu'on vit en ce moment. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup écouter tes anecdotes.
Le tes souvenirs qui vous a marqué dans votre jeunesse dans la mine. Le souvenir qui vous a marqué.
Je ne pense pas en avoir plus l'un que l'autre. Les Saintes-Barbes. Les Saintes-Barbes. Donc, on fêtait Saintes-Barbes le 4 décembre. Et là, j'ai travaillé avec des gens de tout le pays. Des Marocains, des Turcs, des Polonais, enfin toutes les races qu'on peut expliquer. Et il y avait une communion complète sur la fête de Sainte-Barbe. C'était vraiment la protectrice de tout le monde. Donc ça, c'était vraiment... C'est ce que je retiens, que je trouvais beau par rapport à maintenant, avec tous les conflits par rapport aux religions qui sont exécrables. À cette époque-là, il y avait une belle amitié. Il n'y avait pas de Marocains, il n'y avait pas de Belges, il n'y avait pas de Polonais. C'était un mineur qui avait le visage noir et qui était dans la poussière comme tout le monde. Et donc, il vivait les mêmes difficultés.
Sophie, ajoutez. Nous allons passer à la mémographie. Lui, choisissez une chanson qui évoque votre passé. Nous allons passer à la chanson.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le pain propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vit à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Nous allons passer à vos réseaux sociaux actualités, Sophie Lambert, vos réseaux sociaux actualités pour votre association.
Alors, notre page Facebook Sensorielle Belgique.
Actualité.
Alors, l'actualité, ça va être le 29 novembre, hein, c'est la prochaine date d'une réunion en salle au Centre culturel de Bertry. Il y aura certainement une partie conférence avant qu'on aimerait donner, ou à laquelle on aimerait donner parole à Louis Soquet, et puis une partie contact en salle. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez m'écrire à moi personnellement, hein, Sophie Lafalise. Vous pouvez aussi écrire à Sophie Lambert si vous voulez des renseignements plus complets. Mais notre page Facebook Sensorielle est à jour.
Oui, vos actualités, vous en avez. Vous pouvez dire à la radio.
Non, non, rien de spécial.
Nous allons passer aux points forts, points faibles. Sophie, vos points forts, points faibles.
Mes points forts, points faibles. Alors, je suis très ouverte aux autres, très ouverte dans la bienveillance, dans l'écoute et dans l'amour, dans le rire et dans la joie. Mes points faibles. Quels sont mes points faibles ?
Tu me regardes.
je dirais
qu'elle est très organisée, parfois trop organisée. Donc, ça peut l'angoisser parfois de se lancer un peu dans l'inconnu ou de ne pas être assez préparée parce qu'elle aime bien que tout soit fait à la perfection.
Organisée, oui.
Oui, vos points forts, points faibles.
Le point fort, le partage. Le point faible, je vais être prétentieux, mais je n'en vois pas tellement.
Merci beaucoup. Nous allons passer à la rubrique hommage. Dites-nous trois personnes qui vous ont soutenu dans vos projets. Louis, trois personnes qui vous ont soutenu dans vos projets.
Pierre Lemaire, qui m'a fait découvrir les réunions de la médiumnité, de la spiritualité, du magnétisme. Guy Urbain, qui est vraiment formidable dans ce qu'il fait. Donc, troisième personne, mon épouse, qui m'accompagne dans tout ce que je fais.
Eh bien, alors pour moi, il y en a énormément. Je suis très soutenue et c'est magnifique d'ailleurs dans l'amour et dans la bienveillance. J'ai mes amis très proches, Sophie, la Falise, bien sûr, Sylvie, j'ai Florence, il y a aussi Marie-Noël et Pascaline qui sont très présentes pour nous aussi quand on a besoin d'elles pour l'association et d'autres choses. Et ma famille proche, ma sœur, mon papa, merci à eux d'être là en tout cas.
Sophie, la famille, un mot à dire?
Non, je n'ai pas spécialement de mot à dire. Je pense que trois personnes, c'est assez réducteur parce que quand on entre dans ce chemin-là, on a besoin d'être soutenu, évidemment, parce que ce n'est pas encore assez banalisé. Fait qu'on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a besoin du soutien partout où il arrive, on le prend. Et donc, on a la chance d'être très bien entouré, c'est vrai.
Nous allons passer à l'humeur de Sophie. Sa mauvaise humeur.
Sa mauvaise humeur, sa bonne humeur aussi. Alors, on vient de passer la rentrée, on est début septembre ici, et je trouvais ça intéressant de parler un petit peu des réseaux sociaux, de finalement l'impact qu'il a sur nous et sur nos enfants, sur la jeunesse. Alors, on parle beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, ce climat où les mots deviennent des armes et où l'écran sert parfois de bouclier pour frapper sans voir les blessures qu'on inflige. Alors, moi, vous le savez, je vais le tourner d'un point de vue spirituel, hein, puisque si vous me connaissez un petit peu, c'est mon métier, c'est ma façon de voir les choses. Et je pense que la haine n'est jamais qu'un reflet. Je voudrais que les auditeurs, jeunes ou moins jeunes, qui vivent des choses compliquées sur les réseaux, s'en rendent compte. Elle dit plus de celui qui l'écrit que de celui qui la reçoit. Et donc, derrière chaque commentaire violent, il y a souvent une peur, une insécurité, une frustration qui cherche une sortie. Donc, la spiritualité nous rappelle que nous ne sommes pas obligés de prendre ce poison. Nous pouvons choisir de ne pas l'ingérer. Et comme dit un proverbe bouddhiste, on ne guérit pas le feu par le feu, mais par l'eau. Alors, que faire face à la haine en ligne? Se rappeler que derrière l'écran, il y a un être humain, parfois perdu. Ne pas nourrir cette énergie, répondre avec calme ou ne pas répondre du tout. Et surtout, choisir la lumière, diffuser un message positif, partager de la beauté, de la gratitude et de la joie. Parce qu'au final, l'algorithme le plus puissant, ce n'est pas celui des réseaux, c'est celui de nos cœurs. Si chacun sème une petite graine de bienveillance, elle se propage beaucoup plus loin qu'un simple clic. Et donc, je dirais, garder en tête que la haine sur les réseaux sociaux, ça n'est jamais que du virtuel. Préférer l'humain, préférer les échanges comme on le fait aujourd'hui. Et je pense que ça pourrait être déjà le début d'une nouvelle vie beaucoup plus intéressante. Avec plaisir, Angélie.
Oui, tout ce qu'il dit est très beau et oui, tout passe par le dialogue. Le respect et le dialogue fait beaucoup.
Sophie, elle est toujours, c'est ce que j'ai remarqué chez elle. Elle a même peur de faire mal à l'autre. Donc elle pèse ses mots, mais parfois ils sont dits. Mais quand ils sont dits, c'est plutôt pour l'aider que pour faire mal à la personne. Donc elle prend sur elle parfois à son désavantage, puisqu'elle pourrait être mal perçue, mais au fond, c'est une très gentille personne, une très bonne personne.
Très belle personne. Merci Sophie. Louis m'a aussi appris que je suis scorpion. Et donc c'est vrai que les scorpions, parfois, ils ont tendance à répliquer violemment quand ils sont piqués. Et je pense que c'est aussi un mécanisme de défense qui est nécessaire parfois à chaque personne. On est humain, on n'est pas que spirituel, mais on s'entraide l'un l'autre et c'est ce qui compte au fond.
Louis, une chanson qui définit votre présent, votre futur.
Le boss.
Vous avez choisi
Bruce Springsteen.
Et pourquoi?
Mais parce que c'est un gars engagé qui défend les causes et qui n'a pas peur de se mouiller la chemise.
Sophie Lambert, dites-nous trois mots qui définissent la médiumnité. Pour vous, qu'est-ce qui vous réalise, ce qui vous façonne quand vous pensez à ça?
Peut-être qu'il faudrait poser la question pour l'embrancher.
Trois mots, je dirais guide. Je dirais énergie et je dirais âme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Louis, toi, si tu as trois mots qui te viennent comme ça.
Donc, la spiritualité, c'est ce que ça me fait penser.
Oui.
La, spiritualité, ben c'est la vie, c'est l'éternité. La spiritualité, c'est être soi-même, donc parler à son âme. Parler à son âme, on dit c'est ridicule, mais non. L'âme, c'est l'enfant intérieur qu'on ne garde jamais assez. On le brime par des... C'est peut-être pas trois mots. Mais on brime trop le spirituel par le matériel. C'est le défi qu'on vient faire sur Terre. Et donc, la médiumnité, ben, c'est entre les deux. Donc, c'est entre le ciel et la terre. Donc, ça dit bien, médiumnité, c'est accepter qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, comme l'électricité, comme l'air, et pourtant, ça existe. La médiumnité, pour moi, c'est un langage que les anciens, les sages d'autrefois, savaient manipuler, mais à l'heure actuelle, l'évolution de la Terre s'accélère et tout le monde devient médium maintenant. Tout le monde peut parler. On est dans l'ère du Verseau, et l'ère du Verseau, c'est l'ère de la communication. Et donc, c'est presque donné à tout le monde de communiquer, mais encore la même chose, en bien et en mal. On a des portables, on parle, on peut parler sur quelqu'un qui est sur la Lune. Et on peut parler aussi à ses guides, à ses décédés maintenant. Autrefois, ce n'était pas le cas. Donc, moi, je vois la médiumnité comme une belle évolution, mais c'est l'emploi qu'on a fait qui est encore une fois le problème de l'humanité.
Il y a beaucoup de gens qui sont sur la Lune.
Exactement.
J'ai beaucoup parlé.
Non. Alors, c'est serre les points de My Brand. Quand il y a un petit moment de mou, ce qui est très rare chez moi, je mets cette chanson-là à fond dans la maison parti.
C'est pas trop bon.
Nous allons la passer.
Qui veulent t'empêcher d'être heureux. Bats-toi et tu seras libre. Mais quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Oh non, bats-toi, serre le poids et bats-toi. Yeah.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à vous deux, à Sophie Lambert et à Louis Sautier d'avoir accepté notre invitation. Et merci Sophie Lafaïs de m'avoir accompagné tout le long de l'émission. Merci aux auditeurs de Radio Sud, Sophie.
Merci à toi, Angelo. Merci à tous les auditeurs et merci à nos invités exceptionnels.
À moi, Lise.
Merci. N'oubliez pas notre prochaine conférence médiumnique au mois de novembre. Et nous aurons l'opportunité d'avoir Louis Sautier, notre grand invité. Ça va être un moment magnifique et magique.
Merci Angelo et aux deux Sophie, leur belle présence, leur après-midi qu'on vient de passer, de beaux partages.
Nous allons terminer sur une chanson.
Born in the USA de Bruce Springsteen, pour nous mettre un petit peu la motivation dans cette soirée.
Merci à vous.
Merci.